France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand la vie d'après n'est plus tout à fait celle d'avant, parole d'un rescapé du Covid dans un instant, c'est Jean-Luc Reitzer, le député du Haut-Rhin, l'un des premiers frappés par la maladie. Et à la une ce matin, une molécule prometteuse. Justement, ça n'est pas la première, mais l'Institut Pasteur de Lille y croit beaucoup, vous allez l'entendre, sans donner son nom pour éviter les faux espoirs type chloroquine. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le budget 2021, la relance, les priorités du gouvernement, Léa Salamé et vous, Nicolas, allez le demander à votre invité.
Il s'agit du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, au micro d'Inter. Oui, dans une grosse vingtaine de minutes, amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, qu'est-il arrivé à Victorine, cette jeune fille de 18 ans retrouvée morte dans l'Isère, une enquête pour meurtre est ouverte. La 5G, comment ça marche? On vous dira tout alors que sont lancées aujourd'hui les enchères pour les fréquences. Et puis le flop de la rentrée au cinéma, Tenet de Christopher Nolan ne sera pas le messie du cinéma américain.
France Inter.
Il a frôlé la mort au printemps dernier. Premier député contaminé par le coronavirus, Jean-Luc Reitzer s'apprête à faire son retour à l'Assemblée, convalescent depuis son séjour en réanimation. C'était au mois de mars à Mulhouse, épicentre du début de l'épidémie. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, mais il a changé, comme tous ceux qui ont croisé la forme grave du Covid.
Je me porte le moins mal possible par rapport à ce que j'ai pu vivre, 4 semaines de coma, 2 mois et demi d'hospitalisation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séquelles, j'ai eu des escarres, j'ai parfois des moments de fatigue intense. Tout le mois de septembre, ça a été effectivement des examens en pneumologie, en cardiologie, en neurologie. C'est vrai qu'il y a un moment où revenir dans le circuit normal, c'est pas facile. Et donc, il y a aussi cet aspect psychologique qu'il faut prendre en compte pour tous les malades du Covid. Vous n'êtes plus tout à fait le même, madame, lorsque vous avez vécu ce que j'ai pu vivre. Et si je suis revenu de loin, c'est parce qu'il y avait des médecins, parce qu'il y avait un personnel soignant extraordinaire, mais c'est aussi parce que j'avais la volonté de me battre. On reprend goût à la vie. J'ai dit à mon épouse, moi j'adore les escargots, j'adore les grenouilles, j'avais envie d'une bonne bière. J'ai dit au médecin, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure pression? Mais c'est vrai que ce sont des petits détails. Je vis les choses différemment et peut-être plus intensément. Et donc je suis persuadé que j'aurai un accueil super sympa lorsque j'arriverai à Paris, à l'Assemblée nationale. Je suis persuadé que tout le monde sera très attentionné.
Voilà, Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, joint par Cécilia Arbonin. Aujourd'hui, les malades sont mieux pris en charge. De gros progrès ont été faits dans les hôpitaux parce que les médecins connaissent mieux la maladie. Il n'y a toujours pas de traitement miracle. Mais l'Institut Pasteur de Lille met tous ses espoirs dans une molécule déjà utilisée et qui donne de très bons résultats in vitro. L'Institut ne veut pas donner son nom pour éviter l'emballement, comme ce fut le cas pour l'hydroxychloroquine, et parce que cette molécule doit encore prouver son efficacité par un essai clinique sur l'homme. C'est le protocole, Véronique Julia, et ça prend toujours du temps.
C'est un travail de fourmi. Depuis le mois de mars, l'Institut Pasteur de Lille a testé plus de 2000 médicaments existants et de toutes sortes couramment utilisés pour voir s'ils avaient une action antivirale efficace. Parmi ces 2000 molécules, il y en a une qui marche sur des cellules de singes, mais aussi sur des cellules de poumons humains. La molécule en question est connue, mais les chercheurs préfèrent ne pas la citer pour éviter qu'on se précipite pour en acheter. Restons prudents, disent-ils, tout en affichant une certaine confiance, car la molécule tue le virus à faible concentration. Elle n'a pas ou peu d'effets secondaires. Elle a franchi avec succès toutes les étapes du test in vitro, surclassant toutes les autres molécules. Le professeur Benoît Després est le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille.
À l'issue du test primaire, on avait identifié une vingtaine de molécules actives. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, il y avait aussi certains antipsychotiques et puis le remdesivir. Ensuite, ces molécules, elles ont été passées dans un test de criblage secondaire. Et là, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, les antipsychotiques ne fonctionnent plus. Et le remdesivir, lui, il est un peu limité en puissance. Au final, il n'y en avait plus qu'une, oui.
Car cette molécule bloque l'infection même quand les deux portes d'entrée du virus dans la cellule sont ouvertes. C'est un peu technique, mais c'est ça qui rend ce test in vitro aussi encourageant. L'Institut Pasteur de Lille rêverait de pouvoir valider le traitement pour début 2021. Il doit d'abord trouver les 5 millions d'euros qui lui manquent pour financer un essai clinique sur l'homme.
Et en attendant de trouver le traitement qui marche, on fait de la place dans les hôpitaux marseillais qui commencent à déprogrammer les opérations non urgentes et on assiste à l'inexorable augmentation du taux de positivité des tests. tests, 7,5% de Covid sur les dizaines de milliers de prélèvements réalisés hier dans toute la France. Et y aura-t-il de nouvelles restrictions? Olivier Véran donnera sa prochaine conférence de presse jeudi, et ce peut-être de mauvais augure. Le ministre délégué au PME dit qu'il espère que les bars et les restaurants parisiens ne seront pas obligés de fermer totalement comme à Aix et Marseille. Rideau baissé depuis hier, certains font de la résistance, on a vu des terrasses ouvertes à Marseille et on a continué à suer dans quelques salles de sport de la région parisienne. Désobéissance assumée, Alexandre Berthaud.
Guillaume Le Floch est un hors-la-loi.
Dans tous les cas, on sera ouvert.
Malgré l'interdiction d'ouvrir sa salle de sport à Épinay-sur-Seine, le petit tourniquet qui permet aux adhérents d'entrer n'est pas bloqué.
Là, comme vous pouvez le voir, de toute façon, la salle elle est quasi vide.
Cette année, il estime qu'il va perdre 30 à 50% de son chiffre d'affaires. Il a donc mûrement réfléchi et choisi la désobéissance.
Aujourd'hui, il faut faire front au gouvernement qui a pris une décision complètement déloyale vis-à-vis de notre activité, en nous faisant croire qu'en fait on est des salles à risque et qu'en gros si vous voulez attraper le virus, faut venir chez nous.
À l'étage, en short, Abdoul fait travailler ses muscles du dos, sans peur du virus mais conscient du risque.
Il y a des trucs pour nettoyer après chaque utilisation et avant chaque utilisation. Il y a quand même le risque, quoi. Enfin, le risque, il est le même partout, que ce soit dans un bar, en salle de sport, dans les transports, partout.
C'est d'ailleurs la position défendue par les gérants des salles fitness. Pourquoi nous et pas les restaurants?
La distanciation dans un restaurant, elle n'est pas respectée comme chez nous. Et puis surtout, c'est que nous, notre clientèle, on sait qui vient. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Dans un bar, vous rentrez, je ne pense pas qu'ils appliquent le même protocole que celui qu'on a nous.
Plus d'une dizaine de salles de cette même franchise Magic Form ont ouvert leurs portes hier en région parisienne. Plusieurs disent avoir le soutien de leurs élus locaux.
Hier, plusieurs dizaines de gérants de salles de sport ont déposé des recours en justice. Quant aux restaurateurs et aux cafetiers, leurs représentants seront reçus ce matin par le Premier ministre Jean Castex.
Il est 8h07, Florence, dans un face-à-face avec Donald Trump, tout peut arriver.
Et c'est encore plus vrai quand son challenger a une réputation de gaffeur. Trump-Biden, premier débat des deux candidats à la présidentielle américaine. Le duel aura lieu la nuit prochaine, à un peu plus d'un mois de l'élection. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Florence.
Correspondant de France Inter aux États-Unis, vous êtes à Cleveland, dans l'Ohio, où le ring a été installé. D'abord, Grégory, à quoi va ressembler ce débat ?
Alors, ça va durer 90 minutes, les deux candidats sur la même scène, pas masqués, mais à bonne distance, et Covid oblige, quasiment pas de public, 80 spectateurs maximum dans l'amphithéâtre de la Case Western Reserve University, pas de spin room non plus à la fin, vous savez, ce moment où les conseillers vont débriefer le débat auprès des journalistes, pas de poignée de main non plus entre les deux candidats, ni au début ni à la fin, et un seul modérateur, le journaliste de Fox News, Chris Wallace, considéré de manière assez unanime d'ailleurs comme l'un des meilleurs intervieweurs de la télévision américaine.
Alors voilà pour la forme. Sur le fond, de quoi est-ce qu'ils vont parler ?
Pour ce premier débat, 6 thèmes ont été retenus. Les bilans de Biden et Trump, la Cour suprême avec évidemment la nomination de la nouvelle juge Amy Coney Barrett, le coronavirus, les problèmes de racisme, l'économie et enfin l'intégrité de l'élection. Évidemment, Donald Trump devrait aussi être interrogé sur les révélations avant-hier du New York Times sur sa situation fiscale. Là, il faut s'attendre à un Trump sur la défensive. Et puis du côté de Joe Biden, ses conseillers font tout pour minimiser l'importance de ce débat. C'est vrai que le candidat démocrate est largement en tête des sondages en ce moment. Donc ce qu'on dit dans son camp, c'est que le duel avec Trump, quoi qu'il arrive, n'aura que finalement peu de conséquences.
Justement, Grégory, 100 millions d'Américains ont prévu de regarder ce débat. Est-ce qu'il peut faire basculer le scrutin dans un sens ou dans l'autre ?
Oui, c'est vrai que 74% des électeurs disent qu'ils vont suivre la soirée, mais ils ne sont que 3% seulement d'indécis qui disent que peut-être ça les fera changer d'avis. On a une Amérique polarisé, divisé, ou quoi qu'il se passe ce soir, les convaincus des deux côtés ne changeront pas d'avis.
Grégory Phillips en direct de Cleveland, Ohio. Sachez que les chaînes d'info françaises diffuseront le débat la nuit prochaine à partir de 3h du matin, si ça vous dit. Les vignes en feu, c'est la Napa Valley à son tour aux proies aux incendies dans le nord de la Californie. Le domaine de Newton Vineyard, qui appartient au groupe LVMH, a été touché. Des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur logement. L'Arménie accuse la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh. 95 morts depuis dimanche dans cette région séparatiste arménienne d'Azerbaïdjan. L'Arménie dénonce l'ingérence de la Turquie qui aurait déployé des mercenaires transférés de Syrie pour venir en aide aux Azéris. Autre conflit, pas militaire celui-là, la rue contre le président Loukachenko en Biélorussie. Emmanuel Macron vient de rencontrer la chef de l'opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya en Lituanie voisine. Son corps a été découvert hier matin dans un ruisseau de Villefontaine en Isère. Isère. Victorine Dartois, 18 ans, disparue depuis samedi. Bastien Thomas, une enquête est ouverte pour enlèvement et homicide volontaire.
Victorine n'a plus donné de signe de vie depuis samedi soir à 19h. Elle revient d'une journée shopping avec ses copines quand elle passe un coup de fil à ses parents pour leur dire qu'elle rentrera à pied après avoir raté son bus. Elle décide alors de passer par un chemin entre le stade de la Prairie et l'étang de Saint-Bonnet, tout proche de sa maison. Erwan, 15 ans, est au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine, là où était Victorine avant d'entrer à l'université de Lyon. Plus jeune, il rentrait souvent par les bois à côté du stade.
On rentrait beaucoup par la forêt quand on était au collège. Il y a une sorte de piste cyclable autour de l'étang et du stade de la Prairie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. C'est propice à ce genre d'événement. Je ne saurais pas dire si ça craint vraiment, mais ça peut arriver n'importe où.
Badis, 16 ans, est aussi dans le même lycée. Il habite le quartier des Fougères, comme Victorine, et lui ne serait pas rentré tout seul.
C'est sûr qu'il y a des endroits un peu sombres. Je pense par exemple au tunnel qui passe un peu sous la départementale. Enfin, moi, j'y irais pas tout seul, personnellement. C'est vrai que peut-être que ça mériterait un peu plus d'éclairage pour que les gens se sentent en sécurité.
Le corps de Victorine a été découvert inanimé dans un ruisseau difficile d'accès à côté de l'étang de Saint-Bonnet hier midi. L'enquête confiée au parquet de Grenoble prend une tournure criminelle et porte désormais sur des faits d'enlèvement, de séquestration et d'homicide volontaire.
Un appel à témoins a été lancé par les enquêteurs pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Il s'agit du... Vous pouvez téléphoner au 0800 200 142 voilà, pour essayer d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame. Au procès des attentats de janvier 2015, on entre dans le cœur de l'enquête, les liens qui unissaient les terroristes aux 14 accusés, des liens parfois difficiles à établir. Sophie Parmentier, comme souvent, ce sont les téléphones portables qui donnent de précieuses indications.
Les frères Kouachi se sont appelés un millier de fois l'année qui a précédé l'attaque à Charlie Hebdo. Mais ils ont pris la précaution de ne jamais téléphoner à Hamedi Coulibaly avec lequel ils s'étaient synchronisés. Chérif Kouachi a sans doute rusé en utilisant le téléphone de son épouse qui était copine avec Hayat Boumediene, la fiancée de Coulibaly. L'enquête a recensé 150 appels entre les deux femmes. Hamedi Coulibaly possédait 17 téléphones. Les enquêteurs ont décortiqué plusieurs mois de fadettes, analysé 37 millions de données téléphoniques et ils ont mis en évidence une poignée de numéros suspects. Quatre des accusés ont ainsi été arrêtés à cause de leur téléphone, bizarrement connecté au même relais que Coulibaly aux mêmes heures. Peu avant les attentats. Coulibaly, le tueur de Montrouge et de l'hypercachère, a borné au pied de l'immeuble de Chérif Kouachi à minuit 1 dans la nuit du 6 au 7 janvier 2015. À minuit 40, Chérif Kouachi appelait son frère Saïd, sans doute pour lui confirmer le top départ de l'attaque du lendemain.
Sophie Parmentier, la fronde des magistrats contre leur ministre Éric Dupond-Moretti. Ils en appellent à Emmanuel Macron pour faire respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ils l'ont dit hier au cours d'Assemblée Générale Extraordinaire dans plusieurs tribunaux de France. Il ne digère pas l'enquête administrative ouverte contre des procureurs du parquet national financier, mise en cause, vous en souvenez, pour avoir épluché les relevés téléphoniques détaillés de plusieurs ténors du barreau, dont Éric Dupond-Moretti lui-même.
Il est 8h13, Florence. Ça y est, c'est le jour J pour les opérateurs mobiles.
Mais oui, les premières enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G. 2 milliards d'euros à récupérer pour l'État et du retard à rattraper pour la France par rapport aux autres pays développés. Alors, on parle énormément de l'intérêt de la 5G, de ses dangers potentiels. Mais comment ça marche, au fait ? Réponse avec Sophie Bécherel.
Techniquement, la 5G, c'est à la fois la continuité de la 4G et des améliorations, explique Pierre-Jean Bengosi, chercheur et membre du collège de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques.
On parle souvent de la 5G comme de la génération plus 10, 10 fois plus de débit, des délais de transmission, le petit temps qu'il y a entre le moment où on émet le signal et on le reçoit, qui sont divisés par deux, et un nombre d'objets qu'on peut connecter qui sont très très largement démultipliés.
La 5G comporte des ruptures technologiques, à commencer par les bandes de fréquences utilisées, celles des 3,5 GHz aux enchères aujourd'hui, plus tard celles des 26 GHz réservées jusqu'ici au spatial. Les antennes évoluent pour devenir actives.
C'est des antennes qui vont permettre d'éviter d'arroser en fréquence tout un territoire autour de l'antenne, un peu comme le ferait un lampadaire dans la rue, pour pouvoir focaliser le faisceau sur les téléphones ou les objets qui en ont vraiment besoin pour se connecter.
La 5G s'adaptera aussi en temps réel aux usages, par découpage de tranches du réseau. Permettre à des milliers de spectateurs de téléphoner en même temps à la sortie d'un stade, ou bien regarder un film haute définition, ou encore téléopérer un malade. La 5G arrose fort, mais à faible distance. D'ailleurs, les murs et les arbres peuvent empêcher la propagation des ondes. En termes d'exposition, il n'y a pas d'effet néfaste noté à ce jour, mais le nombre d'études menées reste dérisoire.
Magie de la lumière après la la 5G magie de la lumière cette année à Roland-Garros. La jeune Clara Burel, une Française de 19 ans, a pu ainsi terminer et gagner son match à minuit passé. Hier soir, elle passe donc au second tour, ce qui n'est pas le cas de Gaël Monfils, qui n'a pas dû attendre la nuit, lui, puisqu'il s'est incliné dès le premier tour pour la première fois depuis ses débuts à Roland-Garros. Son bourreau est kazakh, il s'appelle Alexander Bublik. Enfin, on en parlait ici même à la rentrée, un blockbuster américain allait sauver le cinéma mondial plombé par la pandémie. Tenet n'a pas tenu ses promesses. Le dernier Christopher Nolan, sorti fin août à coup de promo massive, n'a rapporté que 3,4 millions de dollars ce week-end. Le film en a coûté 200. Son réalisateur avait fait le forcing pour le sortir au plus vite. Loïc Piala, et c'est donc un flop.
Je ne vois pas d'apocalypse là.
Non. Pire que ça.
70% des cinémas ont rouvert aux États-Unis, mais avec une capacité limitée. Les marchés de Los Angeles et New York, les plus importants du pays, restent fermés. Le pari de Warner Bros. Avec Tenet était risqué. Il est perdu. Jeff Block, analyste chez Exhibitor Relations.
Même dans le contexte actuel, parler de bide est approprié en raison des attentes autour du film. Il va faire 50-60 millions de dollars aux États-Unis. Pour Warner Bros., c'est clairement un désastre.
Même les studios concurrents espéraient un succès de Tenet, mais le public n'est visiblement pas prêt à revenir au cinéma. Refroidi, Warner a vite décalé la sortie de Wonder Woman 1984 d'octobre à Noël.
Ce point-là est légèrement dramatique.
Cet échec file des frissons à tout Hollywood. Si un film comme celui-là, réalisé par Nolan, ne vend pas de billets, quel blockbuster va le faire? Ce n'est jamais facile de sortir un film, mais en ce moment, c'est difficile puissance 1000.
Les salles américaines en souffrance depuis 6 mois n'ont aucune autre grosse production à proposer avant Mourir peut attendre fin novembre. Christopher Nolan n'a pas réussi à sauver le cinéma. Même pour James Bond, la mission s'annonce compliquée. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Voilà, réussir peut attendre, réussir à comprendre ce dernier Nolan qui paraît-il est assez difficile d'accès.
Assez compliqué. Merci Florence Paracuelos, la météo Stéphanie Fromentin.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Et Stéphanie, le soleil reste en fond de cour.
Oui, à part le long de la Grande Bleue et des Pyrénées jusqu'aux Alpes, il aura des difficultés à s'imposer, toujours gêné par un léger filet de nuages encore présent du matin au soir. Il faut dire que le vent ne les évacue pas ces nuages, plus aussi fort puisque le Mistral n'est présent qu'à 50 km par heure. Ce sont ces nuages qui vont aujourd'hui arbitrer le jeu du ciel. Ils résistent pour la journée au nord de la Loire jusqu'au nord-est. Du Poitou-Charentes au Limousin, autour de Mâcon et au sud du Jura, ils obligent même le soleil à s'incliner, renforcés par des nappes de grisailles et des bandes brouillard qui tardent à s'évacuer. Mais la couverture nuageuse en journée est moins compacte, lâchant parfois quelques balles humides. Et puis la pluie se qualifie difficilement pour le second tour, alors qu'en première partie, elle est encore bien présente et continue sur le couloir Jura-Alsace-Lorraine. Elle n'apparaîtra qu'à la volée cet après-midi sur toute la moitié nord.
Et le mercure se bat pour rester dans la saison.
Oui, après une belle chute dans la fraîcheur, il remonte doucement le terrain automnal. Si les valeurs au réveil sont encore sonnées avec 3 petits degrés à Rodez et à Grenoble 9 degrés, elles amortissent le choc cet après-midi dans un jeu très homogène. 16 à 19 degrés en général, il fera 17 à Brest et Nancy, 18 à Lyon et Limoges, 19 à Rolland en Charente, mais 20 à Garros dans les Pyrénées-Atlantiques.
Merci Stéphanie, il est 8h19.